Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va?
Salut Hugo, ça va bien et toi?
Ça va bien aussi, merci. Journée chaude aujourd'hui, journée d'été, alors qu'on est encore au mois de mai. C'est un peu bizarre.
Oui, il fait très chaud. J'ai fermé la clim chez nous pour pas avoir de bruit pendant qu'on enregistre, là, fait que je sens la chaleur.
Oui, ben tu vois, moi j'ai fermé la porte de mon bureau, puis la clim est à l'extérieur, évidemment, de la pièce. Alors, ça se passe toujours un peu comme ça, en fait, quand on enregistre, toi et moi, l'été ou quand il fait chaud. Je finis toujours par avoir, évidemment, de plus en plus chaud parce que je gesticule, parce que, bon, l'air ne circule pas tant que ça ici, avec la porte fermée. Donc, j'ai ma bouteille d'eau et éventuellement, j'aurai peut-être un petit peu d'humidité dans le T-shirt, mais bon, on devrait survivre quand même, j'ai l'habitude.
Au moins, on sort seulement les épisodes en audio, donc il y a juste moi qui va voir ça.
Voilà, en super transpiration. Bienvenue, évidemment, à Rembobinage, comme à chaque fois. Donc, podcast, bien sûr, cinéma-télé. Avant qu'on se lance dans notre film québécois cette semaine, y a-t-il quelque chose que tu as vu récemment, qui t'a marqué ou que tu as aimé, pas aimé
En ce moment, c'est drôle, il y a deux séries télé que je regarde avec deux de mes idoles d'enfance. Ces deux ne sont pas ensemble, c'est dans deux séries différentes. Et ces deux acteurs dont on a parlé souvent au podcast. J'écoute FUBAR sur Netflix, qui est la série avec Arnold Schwarzenegger, qui est une espèce de truc action, comédie, espionnage. Là, c'est un peu un mélange de True Lies et de la série Alias dans le temps. Et j'écoute aussi dans un autre style complètement, mais c'est avec Sylvester Stallone. Il a commencé à diffuser une télé-réalité sur Paramount+. C'est lui, sa femme et ses filles. Puis c'est pas de la grande télé, mais c'est quand même divertissant. Puis vu que c'est Stallone, je trouvais ça le fun de le regarder, là.
C'est quand même particulier. Je sais pas de quoi il parle. Il fait son épicerie. Il fait quoi?
Ben, on le voit un petit peu quand il tourne sa série de fiction Tulsa King, qui est sortie il y a quelques mois. On le voit un peu pendant le tournage, mais on voit vraiment beaucoup ses filles qui sont des quasi-influenceuses, un peu à la Kardashian, là.
OK.
Fait que c'est ça. C'est pas tant une série qui s'adresse aux fans de Sylvester Stallone, mais je trouve ça quand même le fun de le voir. On voit aussi son frère, Frank Stallone. Dans le premier épisode, il y a Al Pacino, en tout cas.
Et Al Pacino, on apprenait d'ailleurs ce matin qu'il allait avoir un quatrième enfant. Il a 83 ans.
Oui.
Sa blonde en a 29. J'étais un petit peu troublé par ça.
Ben oui, mais pourquoi pas? S'il y a du fun, s'il y a encore de l'énergie à son âge avancé.
Voilà.
Je suis content.
Robert De Niro aussi, il y en a eu un autre récemment.
Il y a récemment un enfant, oui.
Ouais. Donc, messieurs, si vous êtes dans la force de l'âge, n'ayez crainte, il y a toujours de l'espoir d'avoir une nouvelle descendance par la suite. Tu mentionnais Elias, puis ça me faisait penser, moi j'ai commencé à écouter Citadel, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça.
Ouais, j'ai vu passer ça, ouais.
Avec Stanley Tucci et l'acteur dont j'oublie le nom, mais qui faisait Robb Stark dans Game of Thrones. Puis c'est du gros divertissement, c'est beaucoup, beaucoup d'action. Ça, pour ça, l'action est intéressante, mais t'as des trucs absurdes comme on a enlevé tes souvenirs de ta tête, puis on a mis ça dans une seringue, puis là, si jamais tu veux te réinjecter tes souvenirs, il faut que tu te rentres la seringue dans le cou, c'est comme, d'accord. bref, c'est du gros divertissement, c'est correct, c'est léger. Puis autrement, j'ai fini d'écouter l'intégralité de Stargate SG-1. ça faisait un bout que je voulais faire ça, parce que je suis un grand fan de la série. Et j'envisage avec un de mes amis là, qui est aussi très, très fan de faire un épisode spécial de rembobinage là-dessus. Mais j'ai fini, c'est quand même 10 saisons. Généralement, 20 épisodes par saison, donc ça fait 45 minutes l'épisode.
Ouais, quand même.
C'est du stock. Et c'est assez particulier parce que c'est... Bon, je ne prendrai pas trop longtemps là-dessus parce qu'effectivement, j'envisage de faire un truc spécial à part là-dessus, mais ça a beaucoup accompagné mon adolescence, la fin de mon adolescence, quand je suis au cégep, quand j'étais à l'université aussi, puis de me rendre jusqu'à la fin de cette série-là. Puis là, d'écouter ça 15 ans plus tard... C'est quand même particulier de retrouver ces personnages-là, retrouver un peu des, pas des amis, mais tu sais, du monde que tu as suivi un peu l'évolution, de, tu sais, ils ont-tu perdu des gens, ils ont-tu rencontré l'amour, ils ont-tu, bon, évolué au fil de la série, puis de voir que, bon, la qualité était pas toujours au rendez-vous non plus, mais je pense que c'est quand même une série, tu sais, ça en fait plus vraiment des séries de science-fiction comme ça, donc, je vais avoir bien du fun, je pense, à parler de ça prochainement, mais c'est ça, j'ai fini ça hier soir. J'étais un peu doux-amer, parce que tu sais que c'est le dernier épisode de la série, puis là, t'es comme, ça finit un peu sur un peu un cliff, pas un cliffhanger, mais presque, puis tu vois qu'il y a comme, ils ont juste plus de budget, ou il y a pas assez de téléspectateurs, fait qu'ils ont tiré la plug, comme on dit en beau français. Bref, voilà, fait que c'est ce qui m'occupe ces temps-ci. Puis ça nous amène pas du tout, j'ai aucune façon de faire un lien efficace avec le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, mais admettons que j'en fais un, donc tu pourrais faire comme « wow, quel lien efficace ». On a, comme je disais, on a un film québécois au programme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
On a écouté « Les pas d'allure », c'est le premier long-métrage d'Alexandre Leblanc.
Effectivement, Les pas d'allure, qui était à Fantasia, je pense, l'année passée, si je me trompe pas.
Oui, il a été, je pense que c'était la première mondiale à Fantasia l'été passé. Il a été présenté aussi au Festival de cinéma de la ville de Québec.
Mm-hmm.
Et il a même été présenté à Slam Dance, qui est un festival aux États-Unis, là.
Oui, effectivement, ben j'ai la liste des distinctions là ici. Bon, Fantasia, justement, a gagné le prix du meilleur long métrage québécois au festival. Donc, quand même un film qui a déjà un certain vécu. On reçoit souvent ça, je pense que j'en ai déjà parlé, on reçoit des propositions de liens, on nous dit bon, tel film s'en vient à l'affiche. Et puis comme on est des gens très sédentaires. Ou surtout qu'en fait, que notre horaire est toujours un peu chaotique, c'est difficile pour nous de nous rendre aux projections. Donc, on demande souvent, est-ce qu'on peut avoir un lien? Puis, généralement, on s'écrit, toi et moi, puis on dit, ça te tente-tu de faire un épisode là-dessus? Oui, non, bon. Donc, ça, on a reçu ça, puis ça m'intriguait. Il est question de radio poubelle, entre autres. Je me dis, ah bon, ouais, ça peut être intéressant de voir comment ils traitent la question. Écoute, je peux peut-être essayer de nous faire un résumé, justement, du film.
Ouais, vas-y, j'ai hâte d'entendre ça, parce que c'est un film quand même assez dur à résumer.
Oui, ben c'est un peu un trip psychédélique, en un sens. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Benjamin, ou Benju, je sais pas comment il se fait surnommer. Il arrive chez son compagnon de son ex, qui est joué par Sophie Desmarais, et qui rentre là, puis il dit, écoute, j'ai été kidnappé, on m'a séquestré, nanana, et tu te rends compte qu'en fait, que lui essayait d'aller voler, je pense, un vinyle, une espèce mm-hmm. de vinyle capable d'endoctriner les gens, chez la fille d'un directeur de station de radio poubelle, qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir, semble-t-il, beaucoup, beaucoup d'influence, et donc, il se fait attraper par quelqu'un qui était dans l'appartement de la fille du grand méchant. Et là, c'est ça, il dit, bon, j'ai été séquestré, tout ça. Et largement, le film, c'est de raconter comment il en est arrivé à aller vouloir voler ce disque-là, puis quelle étape il a dû franchir. Est-ce que ça, tu penses que ça répond un peu à
la description de la chose? Oui, c'est quand même un bon résumé de la prémisse, là.
Oui.
C'est sûr qu'après ça, ça va dans plein de directions. Ça s'égare et ça s'éparpille, mais en gros, la prémisse, c'est ça.
Voilà. Ben écoute, tu t'es ouvert la porte. Est-ce que tu as aimé Les pas d'allure?
Oui, j'ai aimé le film. C'est sûr que, comme je disais, ça va dans toutes les directions. Donc, il y a des trucs que j'ai plus aimés que d'autres, mais il y a vraiment des trucs que j'ai adorés assez pour que je peux déjà le dire, c'est un film que je recommande, mais on va en parler, puis c'est pas pour tous les publics, là. C'est assez pour public averti, on peut dire.
Oui, ben c'est ça, j'allais dire aussi, je sais pas si je le recommanderais à l'exception du fait de le voir comme un exercice de style. C'est comme tu disais, c'est très très éparpillé. Moi, je parlais d'un trip un peu psychédélique, c'est un peu ça aussi. On voit que bon, je connais pas nécessairement le parcours là, du réalisateur. J'ai lu rapidement sa bio, mais les trucs sur lesquels elle a travaillé, ça me dit rien. Puis ça veut pas dire que je considère pas ça comme étant bon, mais juste que j'ai pas la connaissance, je connais pas c'est ce qu'il a fait exactement dans le domaine du cinéma. Bref, tu disais, c'est son premier long métrage. Et ça peut arriver de temps en temps, puis on en a déjà fait, je pense, certains premiers longs métrages au podcast, où tu vois que c'est le premier long métrage. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Dans ce cas-ci, je sais pas. C'est comme je disais, c'est ça, très niché, très particulier. Certaines choses intéressantes visuellement, c'est intéressant, bonne utilisation un peu de l'imagerie, pas nécessairement juste de l'image sur l'écran, mais de rajouter un peu du visuel par-dessus ça. Mais je sais pas, je suis assez ambivalent sur la question.
Tu mentionnes le visuel, moi je pense que c'est une des grandes qualités du film. C'est vraiment, même si c'est un premier long métrage, je trouve que c'est super bien réalisé. Mm-hmm. Les images sont en noir et blanc, avec un beau noir et blanc.
Oui.
Et comme tu dis, il y a comme des effets d'animation qui sont comme... ça fait un peu bande dessinée, parce que c'est souvent comme des lignes blanches ou des cercles blancs ou des rayons blancs. Ça fait un petit côté un peu science-fiction par moment, là, que moi, j'ai trouvé vraiment le fun.
Oui, ben j'avoue que ça aussi, ça me plaisait bien, la fameuse, tu sais, je parlais d'un vinyle qui est capable de contrôler les gens. D'abord, quand on parle d'un vinyle, moi, ça m'a bien fait sourire, là, parce qu'on est en... Le film, semble-t-il, je pense, se passe en 2019, mm-hmm. Dans ces eaux-là, un peu avant la pandémie, et de dire, bon, OK, le vinyle est encore très populaire, mais ça reste quelque chose de niché. C'est pas un MP3 qui... contrôle les gens, c'est pas une piste écoutée en ligne, c'est vraiment un vinyle. Ça me rappelait un peu le film, ben là j'ai évidemment un blanc, mais The Ring, voilà. Mm-hmm. Quand c'est évidemment ça c'était à l'époque, ça fait The Ring, ça fait presque 20 ans là. C'était une vidéocassette. J'avais vu une bande dessinée plusieurs années plus tard où c'était le concept de The Ring, mais la vidéo avait été mise sur YouTube. Donc là, rendu là, c'est beaucoup plus compliqué à la fois de combattre la malédiction, mais c'est beaucoup plus facile aussi de se protéger parce que c'est aisé, beaucoup plus simple de partager la vidéo. Ouais, en tout cas, je m'égare un peu.
Oui, mais dans le cas des pas d'allure et du vinyle, je trouve qu'encore là, c'est visuellement, c'est intéressant parce que le vinyle, la musique joue, on le voit visuellement, le disque tourne, puis vu qu'il y a un côté que ça hypnotise les gens... Avec les effets d'animation, il y a comme des espèces de cercles, des ondes qui sortent du vinyle, puis c'est super stylisé. Puis en même temps, je pense que je peux mentionner aussi, il y a le lien avec cette musique-là. C'est Peter Venn qui a composé la musique du film, puis moi, c'est un autre truc que j'ai adoré dans le film. Je trouve que la musique est super bonne. Mm-hmm. Par bout, c'est un peu plus de la musique de film, orchestrale, tout ça, mais... Quand c'est le vinyle qui joue, c'est de l'espèce de gros rock psychédélique. On y revient. Oui. Et ça m'a pas nécessairement hypnotisé, mais je tripais quand même beaucoup à entendre ça, là.
Oui, ben c'est effectivement, c'est de la bonne musique. Puis je trouvais ça particulier de voir. C'est ça, c'est... Encore une fois, c'est le fait... Il faut le faire jouer. C'est pas juste... Il existe, il corrompt les âmes et les cerveaux. C'est vraiment comme un peu comme on disait les questions de radio poubelle. On a plusieurs séquences où tu as des animateurs de cette radio-là qui parlent à un micro et on a la représentation visuelle des ondes qui se déplacent dans les airs avec cette espèce d'effet un peu années 50, là, justement, de rayons hypnotisants où se pensait un peu à l'espèce de la crainte que les gens avaient du péril rouge, la propagande communiste. Là, c'est que cette fois-ci, c'est la propagande contre les pisciclabs et le féminisme, évidemment. Est-ce que toi, t'as jugé que c'était... Parce qu'on s'entend, c'est une parodie poussée à l'extrême de ces radios-là, de ces courants de pensée-là. Est-ce que tu as jugé que c'était peut-être un petit peu trop direct, peut-être, comme façon de critiquer ces mouvements-là?
Ben, moi, personnellement, je suis pas un fan de radio poubelle, de tout ce qui est discours de droite, incluant les chroniqueurs dans les journaux, tout ça. Moi, ça m'agace vraiment beaucoup. Fait que j'étais comme du bord du film qui se moque un peu de ça, à quel point c'est ridicule ce qu'ils essayent de propager. Donc, c'est ça. Moi, ça m'a pas dérangé. J'étais comme... Puis je trouvais pas que c'était exagéré. Tu sais, ce que les animateurs de radio disent, c'est le genre de truc que quand on entend des extraits ou tout ça, c'est le même genre de discours anti-féminisme, anti-etc. Là, qu'ils ont pas exagéré.
Non, effectivement, mais ça me faisait penser. Moi, j'ai longtemps écouté La soirée est encore jeune, puis ça m'arrive d'écouter la version maintenant de jour quotidienne où Olivier Niquette fait jouer des extraits de ces radios-là. Et c'est la même chose. C'est des choses. Il y a une question à un moment donné dans le film de « Oh mon Dieu, les femmes qui s'achètent des vibrateurs » ou il y a vraiment des genres de choses. Tu te dis comment est-ce que des gens peuvent dire ça en 2023? Ben après ça, tu te rends compte que effectivement, les gens disent ça et même pire. Sur les ondes, tu te dis, voyons, on vit dans quelle société? Mais je te dirais que ce que j'ai trouvé vraiment bien là-dedans, puis on donnera pas tous les punchs, mais il y a un moment donné où je me disais, OK, si c'est seulement ça, l'espèce de volonté néfaste de convaincre les gens, si c'est seulement la même chose que dans la vraie vie, ça va être un petit peu décevant parce que, encore une fois, ça, on l'entend puis on le voit régulièrement. Mais à un moment donné, il amène ça un peu plus loin. Je me suis dit, OK, ils ont vraiment réussi leur coup. C'est très drôle, c'est absurde. C'est vraiment le genre d'argument qu'on retrouve, des arguments qui n'ont pas de bon sens. Et à un moment donné, en tout cas, encore une fois, je veux garder certaines choses secrètes, mais il y a des gens qui récitent une espèce de commandement ou de principe, et il y en a un qui dit « on veut pas de race sur nos terrasses ». Tu dis « voyons, c'est tellement ridicule ». Bref, fait que quand c'est rendu vraiment absurde comme ça, là, j'ai aimé ça. Mais ça a pris du temps avant que, en tout cas selon moi, ça a pris du temps avant que le film atteigne ce niveau d'absurdité pour être drôle. Autrement, c'était divertissant visuellement, comme je disais, comme style cinématographique, c'était bien, mais je trouvais que le film comme tel, comme juste objet cinématographique, objet divertissement, ça, il manquait un peu de punch jusqu'à temps qu'on arrive peut-être aux deux tiers du film. Ouais. Et que là, ça se met à décoller.
Ouais, je suis quand même d'accord. C'est comme un peu, même si j'ai plus aimé le film que toi, je crois, mais il y a comme plusieurs films en un. Moi aussi, je trouve que celui que j'ai trouvé le plus le fun, c'est celui avec la société secrète, puis le propriétaire de la radio poubelle, qui s'appelle, je pense, Valère Gravel,
oui,
qui est joué par Richard Fréchette, puis que j'ai un ami, Maxime, qui avait vu le film au Festival à Québec, puis que lui... Il comparait à Palpatine dans Star Wars. Puis c'est vrai qu'il y a un côté ça, vraiment l'espèce de super méchant avec des pouvoirs qui contrôlent les esprits. Ouais. Toute cette partie-là, c'est vraiment la partie, selon moi, la plus tripante du film. Mais il y a quand même d'autres trucs intéressants, comme on revient souvent au gars principal et à Sophie Desmarais, qui est son ex, qui sont comme dans un appartement, puis que... Il essaye d'y raconter l'histoire, puis elle a de la misère à suivre. Fait qu'il y a comme un côté un peu méta, parce que nous-mêmes, en tant que spectateurs, souvent, c'est dur à suivre, puis c'est dur à croire. Donc, c'est ça, je trouvais ça le fun aussi, ça. Puis tu sais, comme tu disais, sans tout mentionner les surprises et les trucs qui se passent, tous les détours, il y a quand même beaucoup de... Je crois, ça je suis pas 100% sûr si c'est une satire ou si c'est juste un portrait de du théâtre et de l'art contemporain, conceptuel. Ouais. Ça, en tout cas, moi, de la façon que je le voyais, je trouvais ça quand même drôle et un peu ridicule. Les scènes de théâtre et d'artistes, tout ça, tu sais, qui sont souvent très prétentieux, puis...
Oui, ben il y a une réflexion à un moment donné qu'un acteur qu'on connaît, là, j'essaie de trouver son nom rapidement dans la distribution. Ben bref, écoute, je l'ai pas sous la main, mais donc qui est justement l'espèce de chef de troupe de théâtre amateur, et là il essaie de jouer du c'est Simon Lacroix, voilà, c'est Simon Lacroix. Et là il essaie de jouer du Shakespeare, je pense, il essaie de monter une pièce de théâtre classique. Et il finit par dire « Non, non, ça marche pas du tout, il faut une répétition. » Ça, il dit « Ça fonctionne pas. Faut laisser tomber le texte. » C'est « OK, mais le théâtre, pas de texte, c'est de la danse, c'est du mime, qu'est-ce que tu fais? T'sais? » Puis là, ça en allait vraiment, t'sais, ça finit avec genre une des actrices qui crache des œufs sur une table. Et là, tu dis « OK, il y a vraiment quelque chose. » Et puis bon, je suis pas en train de dire que c'est aussi pire que ça, mais il y a des moments donnés, moi, je vois beaucoup de théâtre pour pieuvre. Et des fois, tu te dis, est-ce que c'est un peu vrai que sont dans une pièce, puis ça arrive dans tous les projets. T'es dans une pièce avec des gens que tu connais, avec des gens qui pensent comme toi. Et là, soudainement, tout le monde est d'accord sur quelque chose et t'as pas d'avis extérieur. Et là, si t'avais un avis extérieur, peut-être que la personne, cette personne te dirait, ben non, ça a pas de bon sens, c'est horrible. Et j'en ai vu, moi, des œuvres comme ça. Puis c'est mon avis personnel, mais j'en ai vu des œuvres où je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qui a pas dit que ça avait pas d'allure? Donc, on est un peu là-dedans aussi. C'est un peu dans ce sens-là un film qui tire sur un petit peu tout ce qui bouge. Tu sais, on est vraiment comme... Parce que, en fait, puis ça vient de me flasher, de d'avoir le flash dans ma tête, mais la radio d'opinion, de droite surtout, parce qu'on est, c'est le thème du film, le théâtre, c'est un peu la même chose. Tu sais, quand t'es tout le temps offusqué... Quand la gauche est tout le temps la méchante, quand les woke sont tout le temps les méchants, c'est du théâtre. Tu peux pas être constamment fâché contre tout. À un moment donné, à moins que tu crois vraiment...
J'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est un bon lien que tu fais, que dans le fond, l'animateur de Radio Poubelle, c'est un peu du théâtre qui fait, dans le fond, c'est pas clair. Ou tu sais, moi, je me demande souvent, mettons, Richard Martineau, s'il pense vraiment ce qu'il écrit... Ou si, dans le fond, il veut juste provoquer, il veut juste donner un show, là, tu sais.
Mais peut-être un peu des deux. Mais c'est sûr qu'il veut provoquer parce que ça marche, parce que les gens cliquent, parce que les gens lisent sa chronique, parce que, tu sais, bon, peut-être qu'il s'abonne juste pour sa chronique. Donc, il y a clairement quelque chose, quelque part, qui incite ces gens-là à continuer de dire des choses comme ça. J'aimerais poser la question à ces gens-là, puis ça vaut aussi pour les chroniqueurs de gauche. J'en connais pas qui sont aussi extrêmes que certains chroniqueurs de droite, mais si jamais j'en rencontrais, j'aimerais ça lui demander, est-ce que vous croyez à ce que vous dites? Est-ce que vous êtes vraiment persuadé que c'est ça? Puis on n'est pas dans les théories de la conspiration, on rentre pas là-dedans, mais est-ce que vous êtes persuadé que ça, c'est la réalité et que les pistes cyclables, ça amène de la criminalité ou que... si c'est pas l'anarchie, l'anarchie totale, c'est le grand capital. Il y a quelque chose de même à quelque part que on finit tellement par se persuader soi-même que ça c'est vrai, qu'éventuellement c'est ça, le reste de la réalité disparaît. Mais bon, là on sort un peu du cadre du film.
Ben, je pense, non, je trouve ça pertinent. Je trouve que plus qu'on en parle, que dans le fond, le film c'est un peu une. C'est les extrêmes, c'est l'extrême de la droite de la radio poubelle, l'extrême de l'art un peu expérimental, tout ça, qui, en tout cas, selon nous deux, je crois, on trouve que ça va un peu trop loin, puis ça oublie un peu la base, là. Oui. Mais c'est ça, je trouve que c'est dans les thèmes du film, là, tu sais. Pour un film que, si j'ai bien compris, a été en grande partie improvisé, wow. Du moins au niveau des dialogues, tout ça, je trouve qu'il y a quand même des trucs qu'on peut ressortir du film, faire des liens, puis dire « Ah non, je sais pas si c'est au montage qu'Alexandre Leblanc a réussi justement à créer des liens de la façon qu'il a monté tout ce qu'il avait tourné, là, mais tu sais, ça se tient quand même. »
Oui, ben T'sais, on parlait d'extrême dans le synopsis. On parle de, bon, justement, le personnage de Benjamin qui ça dit, bon, s'allier à une cellule de terroristes de gauche. Donc, on est vraiment, on est clairement là-dedans. On est dans les extrêmes qui s'affrontent pour le contrôle d'un vinyle. D'accord. Ben, écoute, c'est, évidemment, c'est un symbole. Puis ça me rappelle aussi, bon, puis cette série-là, malheureusement, est complètement disparue des ondes, puis il n'existe pas de version DVD, puis c'est pas sur aucune plateforme, mais Bunker, le cirque, je sais pas si tu l'avais vu à l'époque.
J'ai pas vu, non.
Ça commence à faire très, très longtemps, mais je me souviens que c'était un peu ça. C'était beaucoup, beaucoup dans la symbolique. Puis j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent non plus, mais c'était vraiment... Il y a une scène, par exemple, avec quelqu'un, ce qui est l'espèce de grand mandarin de l'État québécois qui déclenche une grève, ben le fait de déclencher la grève, c'est de tirer sur une espèce de chaîne dans une pièce où il y a des mécanismes. Et c'est ça le déclenchement de la grève. C'est pas des gens qui font du piquetage ou quoi que ce soit. C'était donc on est vraiment dans l'image. C'est un peu paradoxal quand même pour un film sur de la radio, là. mais voilà. Donc
la conception sonore aussi est vraiment bonne. Je trouve qu'il y a beaucoup. T'sais, je mentionnais la musique, mais aussi dans la façon que toute l'atmosphère sonore et les effets sonores, tout ça, il y a plein de choses qui se passent. Je trouve que c'est un film qui est à peu près aussi le fun à écouter qu'à regarder. Il y a vraiment un travail très soigné dans les deux cas, là.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment t'es venu te chercher à prendre un rebrousse-poil un peu dans ce film-là?
Ben, c'est ça. Je pense que, comme je disais, je pense plutôt, c'est pas tout qui fonctionne. Puis parfois, certains détours, certaines scènes, j'étais comme, je trouvais ça un peu long. J'étais comme, ah, OK, je comprends plus trop où ils s'en vont avec ça. Puis ça me rejoint pas tant que ça. Mais ça durait jamais quand même trop longtemps. Je pense qu'à toutes les 3-4 minutes, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. De plus BD-esque, là. Comme je disais, moi, le côté bande dessinée, un peu science-fiction, tout ça, c'est l'aspect qui est venu me chercher le plus, puis ça revient quand même assez régulièrement, puis j'aimais aussi, on retourne toujours à l'appartement avec, je pense que j'ai son nom pas loin, l'acteur, c'est Jean-Sébastien Courchesne,
voilà,
et Sophie Desmarais, j'ai trouvé le fun quand même, leur complicité, puis la façon qu'ils se racontaient l'histoire. Fait que c'est ça. Fait que je trouve pas que c'est un film parfait. Je trouve que c'est parfois un peu inégal, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a plus de qualité que de petits défauts, là.
Ben, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais effectivement, quand je pense qu'un film a besoin de faire une scène où une des actrices dit « Attends, mais là, c'est pas clair ton histoire, puis là, faut... » essayer de réexpliquer les choses. J'avoue qu'à un moment donné, il y avait beaucoup, beaucoup de personnages secondaires, beaucoup d'étapes, en gros, entre d'intermédiaires, si on veut, entre le grand méchant et le personnage de Benjamin, donc Jean-Sébastien Courchesne. Puis là, à un moment donné, je me disais, qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Pourquoi cette personne-là est là? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a une scène de kung-fu? C'est pour ça que je disais, ça paraît. Sans, j'ai l'impression de dire ça, puis ça sonne vraiment péjoratif. Mais quand je dis que ça paraît que c'est un premier long métrage, puis c'est dit en tout respect. Je sais que c'est faire un film, c'est compliqué, puis ça demande beaucoup d'énergie, puis de temps, puis de créativité. Mais j'ai l'impression qu'il y avait comme trop de choses, et pourtant ça dure 1h30. Mais c'était un peu trop, c'est ça, trop éparpillé, trop éclaté. Puis, tu vois, le fait, tu sais, on a trouvé un sens, toi et moi, parce qu'on en parle. Mais une personne qui va voir ça en étant seule, ou qui visionne soit en salle, soit à la maison, qui est comme, bon, ben, j'ai vu ce film-là, c'est terminé. OK, peut-être qu'elle va se mettre à faire des liens éventuellement dans sa tête, mais je pense que le film nous pousse pas assez à, pendant le film, faire des liens, puis à dire « OK, ça, c'est une allégorie pour ça, puis ça, c'est... » Tu sais, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main nécessairement, là. C'est assez ennuyant, vraiment, quand ça arrive. Wow,
Mais c'est un peu ça que je disais au début, que ça s'adresse à un public précis. Je pense que c'est un film pour les cinéphiles.
Ouais.
Tu sais, c'est quelque chose qu'on parle souvent au podcast. tu sais, puis je pense que c'est un peu, le podcast s'adresse quand même en partie à ça, à des gens qui regardent beaucoup de films et que peut-être parfois ils veulent prendre un break de Hollywood, des formules, des trucs un peu qu'on a vu mille fois, et c'est quand même le fun justement de voir quelque chose de plus original, de quelque chose de plus atypique, et que si on fait l'effort justement de dire OK, de pas s'arrêter à dire ah c'est n'importe quoi, mais tu sais, de dire non, il y a quand même des idées intéressantes, oui. il y a des effets de style, puis il y a des liens à faire, puis je pense que si on est dans le bon état d'esprit, c'est quand même un film qui est intéressant à voir.
Excellent. Ben écoute, moi aussi je le recommande en tenant compte de ces détails-là, de ces particularités-là. Si jamais, bon, les gens qui nous écoutent, si jamais ça vous tente de voir ce film-là, il va être présenté en fin de semaine, donc 3 juin, cinéma moderne et cinéma public. D'ailleurs, le public, c'est à quel endroit déjà? Je pense que tu dois le savoir plus que moi.
Je suis jamais allé encore. Je suis pas sûr. C'est où? C'est peut-être dans la petite Italie, mais je suis pas sûr.
Ben écoute, je vérifie très rapidement, mais je semble pas avoir j'ai pas l'air d'avoir la réponse tout de suite. Et bref, cinéma moderne le 3 juin, donc samedi à 19h, 1h30 plus tard au cinéma public, toujours à Montréal. Ces deux séances-là sont en présence d'Alexandre Deblanc, donc réalisateur, et de Jean-Sébastien Courchesne et Sophie Desmarais, donc les deux acteurs principaux. Sinon, présenté le 9 juin, encore au cinéma public. Le 11 juin au Moderne et le 14 juin retour au public, donc 5 séances donc à Montréal au cours deux prochaines semaines à peu près. Donc si ça vous tente de voir ça, c'est l'occasion idéale pour le faire. Donc voilà, ben écoute Kevin, je pense qu'on a sauté une découverte intéressante, intrigante.
Oui, ben c'est ça, tu sais, souvent on est dans notre zone de confort, on parle de films des années 80 ou de films de science-fiction, des trucs qu'on a vus des dizaines de fois, puis que c'est très le fun, mais c'est le fun des fois d'essayer de creuser un peu, puis d'essayer des films que c'est en discutant qu'on est comme, on essaye de les comprendre, je trouve ça le fun.
Oui, absolument. Ben c'est drôle que tu parles de films des années 80 parce que on a annoncé le film, voilà, sur lequel on va faire notre prochain épisode en primeur. Donc pour les gens de chez Patreon, ça va être Les Aventuriers de l'Arche Perdue, donc Raiders of the Lost Ark, le premier film d'Indiana Jones, parce que le cinquième film sort très bientôt, donc sort au mois de juin, The Dial of Destiny. Je sais pas c'est quoi le titre en français.
Je pense que c'est Le Cadran de la Destinée.
Ah, ça serait logique.
C'est assez littéral.
Ça serait pas mal logique. Donc voilà, ça sort bientôt. Et donc nous, on a décidé de revoir le tout premier film qui a 40 ans, je pense, déjà.
Un peu plus, je pense, ouais. 42 ou quelque chose du genre.
Mais bref, déjà justement quelques décennies au compteur. Donc voilà, ça va être à surveiller pour les abonnés Patreon, ça va sortir au mois de juin. Et pour tout le monde, tout le public en général, ça va sortir en juillet. Mais évidemment, si vous voulez avoir accès tout de suite, dès que ça sort sur Patreon, c'est le palier à 5$, comme je le mentionnais dans le message au début de l'épisode. Autrement, ben écoute, Kevin, merci. Merci d'avoir été là, évidemment, avec moi pour les pas d'allure.
Oui, ben merci. Puis je pense qu'on a réussi à pas faire de la radio poubelle, à faire quelque chose qui s'attaque pas trop à la gauche.
Voilà. Ben écoute, la gauche, si elle fait des nounouneries, on peut aussi l'attaquer, mais c'est pas l'objectif du podcast. Voilà, on est surtout, évidemment, on essaie de s'en tenir aux critiques cinéma, mais comme toujours, on devient de plus en plus anarcho-syndicaliste, communiste et toutes ces sortes de choses. Voilà, merci encore et merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur à peu près toutes les plateformes où il y a des podcasts, également bien sûr sur pieuvre.ca. Avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission et je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. Ça comprend bien sûr tous les épisodes de podcast. Ça comprend aussi tous nos articles et toutes nos critiques. Je vous dis merci et à bientôt.